William de Wilder, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la recherche économique chez BNP Paribas. On va parler avec vous justement de, pour commencer peut-être des États-Unis, hein, avec les derniers commentaires de la Réserve fédérale américaine. Comment vous analysez-vous aujourd'hui la situation économique aux États-Unis ?
La bonne nouvelle, que c'est une économie qui a su mener une politique économique et surtout monétaire qui s'est prouvée efficace. Et les perspectives pour les années à venir vont toujours dans le sens d'un maintien d'un taux de croissance satisfaisant, inférieur à ce qu'on a vu dans le passé, bien évidemment, mais satisfaisant. Si bien que maintenant, enfin, on s'approche donc du stade où la politique peut être normalisée sur le plan monétaire.
Alors, on pourrait dire qu'il y a eu des débats de ce côté-là. Pour l'instant, on reste sur ce statu quo. On pouvait penser que peut-être la Fed accélère un petit peu.
En effet, je pense qu'il y a deux lectures qu'on peut faire. La première, c'est la Fed fait preuve de beaucoup de prudence parce qu'elle veut à tout prix éviter de remonter les taux trop vite et en quelque sorte de tuer la reprise. Le coût d'une telle fausse manœuvre serait très important dans la mesure où, comme les taux réels sont toujours négatifs, la marge de manœuvre pour assouplir, pour réagir à un nouvel essoufflement de croissance serait pratiquement inexistante, si bien qu'elle devrait à nouveau faire appel à l'assouplissement quantitatif. Donc du coup, elle essaye d'attendre le plus longtemps possible et donc de ne pas prendre des risques. Le deuxième point, la deuxième lecture, c'est que la Fed est en quelque sorte prise en otage par le marché. Et je pense que les deux lectures sont d'application. La Fed est bien consciente du fait qu'un ton trop agressif brusquerait les choses du côté marché obligataire et donc par effet de ricochet pèserait aussi sur la bourse et pourrait même provoquer un recul plus important des cours. Et donc c'est là qu'on essaie de trouver le juste équilibre.
Donc quelque part elle pilote toujours les marchés comme on dit, mais il pourrait très bien y avoir des risques si effectivement à un moment donné elle était obligée de se défaire de cette emprise.
C'est bien le cas, et donc un des risques majeurs pour 2015, c'est justement une économie qui s'accélérait trop fortement, un marché de l'emploi qui s'améliore très très nettement, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et que donc du coup on aurait l'impression que la Réserve fédérale effectivement doit ajuster le tir d'une manière plus agressive qu'on l'imagine aujourd'hui. C'est un risque, c'est clairement pas le scénario de base. Nous avons un scénario que finalement elle se met à resserrer la vis et commence à monter le taux d'intérêt quelque part au deuxième trimestre et qu'en cumul pour l'année 2015, la hausse du taux de Fed Funds serait d'à peu près 100 points de base.
Donc ça c'est effectivement aujourd'hui le scénario, il évoluera peut-être effectivement dans les prochains mois. Du côté de la Banque Centrale Européenne, du côté de la zone euro, là on a une toute autre problématique. Effectivement c'est de retrouver des moyens de relancer la croissance, pour l'instant on en voit peu. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la Banque Centrale Européenne, elle court un peu après et arrive un petit peu tard à chaque fois? C'est ce que disent parfois des investisseurs.
Oui, il y a un grand débat philosophique qui ne date pas d'hier. En fait, déjà il y a des années, il était mené sur est-ce que la politique monétaire face à une crise, face à une récession, est-ce que la politique monétaire doit être extrêmement agressive en prenant donc le risque de faire trop, ou est-ce que justement c'est le gradualisme qu'il faut suivre. Force est de constater que du côté de la Banque Centrale Européenne, la bonne nouvelle lorsqu'on regarde en arrière, c'est qu'elle a fait preuve de courage, d'audace même. La mauvaise nouvelle, c'est que c'était toujours lorsqu'on était confronté à un nouveau problème. Et donc c'est là que le gradualisme qu'on a quand même observé. Donc tout en suivant un parcours très graduel, on est allé très loin. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que bon, la croissance, l'économie stagne ou la croissance elle est très lente. On pense que pour le prochain trimestre, elle restera lente avec donc une amélioration qui interviendrait quelque part au second semestre 2015. Et donc la question c'est, face à ça, avec le faible niveau d'inflation, est-ce qu'elle a fait assez, qu'est-ce qu'on peut encore faire, etc. D'où l'importance bien évidemment des nouvelles qui tomberont sur l'appétit des banques pour le TLTRO, d'où aussi l'importance du programme d'achat d'instruments ABS. Mais quand même, on commence également à se rendre compte qu'on touche quelque part le fond de ce qu'on pourrait faire, qui sont d'ailleurs exactement les propos qu'a tenu Mario Draghi à Jackson Hole fin août.
Donc en attendant des mesures du côté des États, des mesures qu'on attend notamment en France, mais qu'on ne voit pas forcément venir.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le plaidoyer, en toute logique, devient un plaidoyer pour une politique budgétaire qui est plus en ligne avec l'environnement économique, de la zone euro dans sa globalité, et puis au niveau des pays. Et en fait, c'est une question de trouver donc l'équilibre où certains pays doivent continuer leurs efforts, voire augmenter leurs efforts, et d'autres pays qui ont un peu de marge pourraient justement faire une petite contribution pour développer la croissance. À ce propos, il est intéressant de constater que, par exemple, aux Pays-Bas, on relâche un peu parce qu'il y a de la marge, le déficit est bien passé en dessous des 3%. Les regards sont bien évidemment tournés vers l'Allemagne, où là, le contexte politique est assez compliqué. Et donc, il y a un risque que Mme Merkel n'ait pas beaucoup envie à lâcher un peu de l'Est et faire preuve de, disons, de sa petite contribution pour relancer l'économie européenne, justement parce qu'elle a peur d'être critiquée dans son pays des autres partis politiques.
Alors, si on s'éloigne un peu de la zone euro et qu'on parle du Japon, on a vu les mesures concernant la hausse de TVA hein, qui était prévue, on a vu cet impact. On en est où justement sur cette économie japonaise aujourd'hui ?
Le point qui surprend le plus au Japon, c'est que finalement, lorsqu'on regarde l'entrée en vigueur d'Abenomics, ou du moins l'annonce au quatrième trimestre 2012, on est arrivé à combler l'écart qu'il y avait entre on pourrait produire autant et on produit ça. On est arrivé à combler cet écart relativement rapidement. Ceci veut dire que c'est une économie qui est maintenant quand même confrontée à une sorte de barrière liée au côté offre. D'où donc l'importance aussi de la fameuse troisième flèche d'Abenomics dont on parle depuis plus d'un an, plus de deux ans même, et où on attend toujours les grandes initiatives. Ce qui est important d'un point de vue économique au Japon et certainement d'un point de vue objectif d'inflation que s'est fixé la Banque centrale, c'est que le yen, le glissement du yen s'accélère. C'est bien évidemment à mettre en rapport surtout avec ce qui se passe du côté américain. Et donc là, les raisons du glissement dollarien ne sont pas différentes des raisons du glissement euro-dollar. C'est un point qui est important parce que c'est un impact sur l'inflation, c'est un impact bien évidemment sur la bourse, on l'a bien vu ces derniers jours. Maintenant, la grande question au Japon, c'est comment traduire ces gains sur le yen, je dis la dépréciation sur le yen, dans des exportations qui partiraient en hausse, etc. Et donc là, on attend.
Pour terminer sur les pays émergents, là, on a pu voir des surprises quand même. On ne s'attendait pas forcément à ce que le Brésil soit un jour en récession quand on parlait de ces pays émergents. Les pays émergents, ils sont en convalescence, ils sont entre deux cycles. Comment vous les analysez ?
Le mot qui domine, c'est l'hétérogénéité. Donc, du coup, il est assez difficile d'utiliser un mot qui résume le tout parce que. En moyenne, le mot est approprié, mais lorsqu'on regarde en détail, il y a des pays qui sont au-dessus et en dessous. Par exemple, d'un côté, on a l'Inde qui se porte bien. La Chine, certes, affiche toujours un taux de croissance satisfaisant, mais moyennant des mesures de relance qui sont prises quand même avec une grande régularité, on l'a encore vu il y a quelques jours, avec des nouvelles impulsions monétaires. En revanche, lorsqu'on regarde, comme vous le mentionnez, du côté brésilien, donc là c'est un pays qui est en quasi-récession, c'est à mettre en rapport avec plusieurs facteurs. Il y a clairement une contrainte d'offre, en dépit d'un taux de croissance qui est très faible. Comme il y a une contrainte d'offre, il y a donc trop d'inflation, donc du coup les taux réels doivent être très élevés. Et la croissance dans le passé a été adoptée par une expansion très importante du crédit. Comme les taux d'intérêt sont élevés en réel, du coup, l'expansion du crédit en souffre. Et donc, c'est un pays qui, effectivement, est dans un passage difficile, où, bien évidemment, les regards sont maintenant tournés vers les résultats des élections. Et donc là, la bourse espère que ça apportera du changement et que, donc, du coup, ça pourrait avoir des conséquences économiques plus positives aussi. N'empêche que c'est quand même un pays qui, même en 2015, connaîtra une conjoncture difficile.
Merci William Vigder d'avoir été avec nous.